Les contes sont inspirés par le sol même, une sorte de sens qui en émane, une vérité qui naît du regard patient de l'homme sur les choses, sur les lieux et les êtres de son univers familier. La légende est ce qui permet à l'homme d'habiter le monde.
Bienvenue, vous êtes sur RDIWA 107.5, vous écoutez la pensée des peuples. La Nouvelle-Calédonie, ou Kanaky, va souffler dans vos oreilles ses mythes et ses croyances, à la découverte d'un peuple mystérieux et plein de respect. Espoir, Nouvelle-Calédonie. Je me souviens d'une île, je me souviens d'une ville. Soleil brûlant sur cris d'enfant, douceur d'alizée d'une plage désertée, où l'azur rencontre la nature, où la mer embrasse la terre. Nouvelle-Calédonie, terre où j'ai grandi, île ensoleillée où je suis née, laisse-moi chanter tes senteurs fleurées. Laisse-moi conter ces histoires du passé, où se sont mélangés bonheur et oppression d'un peuple malmené. Par toute une nation, tous ces parvenus, venus, corrompus, prendre ce qu'il y avait de beau en nous laissant nous sur le carreau. Nous imposant ces lois sans nous laisser de choix, si ce n'est celui de quitter cette île où nous sommes nés. Mais un jour viendra où je reviendrai à Nouméa, sur la terre de mes ancêtres, cette terre qui m'a vu naître. Ce jour-là, nous aurons peut-être le pouvoir de dire non. Mythe des origines, Théa Kanaké. L'origine des êtres. À l'aube du monde, la lune dépose sa dent sur un rocher qui émerge de l'océan. Sous l'effet de ses rayons, la dent se décompose, apparaissent alors les premiers êtres vivants. Ce qui reste sur le rocher se transforme en lézard, et ceux qui glissent dans l'eau deviennent anguilles et serpents. De ces êtres primordiaux naît Théa Kanaké. La terre nourricière. Né ignorant de tout, il demande aux esprits de lui transmettre ce qu'il doit savoir pour vivre sur terre. La magie des pierres et des herbes, le travail des champs, la connaissance des plantes. Alors il cultive l'igname et fait pousser le tarot. La terre des ancêtres. Les esprits lui apprennent la vie en société. Théa Kanaké échange les premières ignames et construit la grande case ronde des origines. Il plante le pin colonnaire qui délimite les lieux sacrés et tabous. Puis Théa proclame la première parole. Le pays des esprits. Afin de tout savoir de la vie des hommes, Théa Kanaké décide de connaître la mort. Il entre dans le banyan, qui est le corps des esprits. En suivant ses racines qui pénètrent au pays souterrain, il traverse le pays des morts, en ce ventre maternel, et il se transforme. La renaissance. Comme les rejets qui renaissent d'un tronc coupé, Théa Kanaké, porteur de la continuité de la parole, traverse la roche percée, symbole de la renaissance. Il souffle la parole dans la feuille du bois de fer, où elle chantera toujours, grâce à cette parole, s'ouvre une ère nouvelle. La coutume en Nouvelle-Calédonie. L'organisation coutumière traditionnelle continue de régir la vie quotidienne des clans en Nouvelle-Calédonie, surtout dans les îles Loyauté, mais également sur l'île de Pin et le long de la côte est de la Grande Terre. Il est essentiel de la respecter, notamment en faisant coutume, c'est-à-dire en offrant un petit cadeau au chef de la tribu à laquelle vous rendez visite, en signe de respect, mais aussi en demandant l'autorisation pour vous aventurer dans les lieux tabous, les traditions. La culture kanak traditionnelle est bien ancrée dans la société, malgré sa modernisation. Elle est régie par la culture de la terre, géographiquement répartie entre les clans. Cette dernière y structure l'organisation sociale. La société kanak s'organise en districts coutumiers ou grandes chefferies, dirigées par les grands chefs. Ces chefferies sont divisées en tribus et clans, dirigées par les petits chefs. Toute la vie du clan est rythmée par la récolte de l'igname, tubercule sacré, et aliment principal avant l'arrivée des Européens. Il symbolise la virilité, l'honneur, l'offrande noble et représente les ancêtres, les jeunes, les chefs, la terre. La case kanak. Ces habitations étaient autrefois utilisées pour les réunions des grands chefs. Édifiée en général sur les points culminants du village, la grande case est construite en matériaux végétaux et conçue pour résister aux cyclones. Le poteau central en bois de houppe, endémique en Nouvelle-Calédonie, personnifie le grand chef. C'est ici l'histoire d'une femme, Nani, qui a perdu son mari, disparu en mer, car il n'avait pas respecté les présents coutumiers préalables à l'abattage du tronc ayant servi à faire sa pirogue. Le contrevenant a donc payé de sa vie sa faute, et la veuve éplorée, à la recherche d'un signe de son époux défunt, rencontre dans la forêt, monde des esprits et des ancêtres par excellence, une autre femme, qui pleure aussi un être cher, un de ses fils décédés, le grand Kaori abattu. C'est la gardienne du monde des eaux, mère de tous les arbres de la forêt, qui apparaît dans un trou d'eau. Comme il se doit pour s'adresser à un ancêtre, Nani l'appelle grand-mère et l'implore de lui rendre son mari, qu'elle garde prisonnier pour le punir d'avoir tué son fils, sans le lui avoir demandé. Le prix à payer pour le récupérer est le fruit de leur amour, que Nani porte dans son ventre. Un enfant à naître, le premier du couple, contre celui qui a été abattu. Une fois scellé l'accord entre les deux femmes, Nani rentre chez elle, où elle retrouve son époux. Et à la place du grand Kaori abattu, pousse un jeune plant, symbole de l'enfant de Nani sacrifié, qui sera le futur maître du monde de l'eau et de la forêt. Une larme de la mer et la pluie fine tombent sur la jeune pousse, produisent un léger murmure à l'oreille de la mer éplorée, disant « Je te pardonne ». Au rythme du bambou, eau fluide, long silence. Nuit creusée d'un son lourd, tumulte, rage sourde, mêlée sur la voix du bambou. Le danseur s'élance et sa joie relie. La forêt, le vent, les esprits, la lune, la terre tremble. Clameur, la terre tremble. Poussière de soie, le danseur s'élance. Soulève la forêt, le vent, les esprits, la lune. Et les mêle, ivre, à sa joie.
Llegué tú, llegué tú, llegué tú, llegué tú, llegué tú.
les danses traditionnelles kanak, reflètent les périodes de la vie kanak. Elles sont un moyen de retranscrire et retracer l'histoire d'un clan, de la culture de l'igname et des chants, des cérémonies, mariages, deuils, coutumes. Elles sont aussi une manière de se mouvoir dans le monde de l'invisible et du devenir, esprit. Les formes les plus connues de danse mélanésienne sont le tchap et le pilou. Le tchap est une danse guerrière décrivant les combats et les mouvements d'intimidation du guerrier, et au travers de gestes brusques et souples, accompagnés par des chants. La force de cette danse se réside dans le rythme saccadé des bambous frappés et l'émotion dégagée par les danseurs. La cohésion de ces deux facteurs rend la danse extraordinaire. La pression et le goût du combat se fait sentir. Ils sont en cohésion avec les esprits. Le pilou est une danse de partage et de rencontre. Elle invite les personnes de toute ethnie et de toute origine à se rassembler et à danser en cercle autour d'un poteau cérémoniel. En principe, une personne âgée ou de grande responsabilité devra se poster en hauteur au niveau du poteau et cadencera le rythme de la danse avec un chant. Le but principal est un appel à la cohésion et à la convivialité. Au temps des vieux, cette danse était un moyen de communiquer et d'apprécier les esprits des ancêtres au travers de grandes cérémonies. Elle était le lien entre les vivants et le monde des esprits. Et il fallait toujours que quelqu'un danse autour du poteau, sinon le lien était brisé, et cela pouvait durer des jours, des mois. La danse, mieux qu'aucun autre art, peut nous livrer l'essentiel des mythes. La robe mission, une des premières mesures prises par les missionnaires évangélisant les Mélanésiens, fut d'habiller les femmes coutumièrement très peu vêtues. Les sœurs finirent par mettre au point un modèle très pudique, de robes longues, amples et sans décolleté. L'ingéniosité féminine en a fait des robes très colorées et ravissantes, avec de la dentelle en place de décolleté, et souvent d'une grande légèreté. La robe mission continue d'être beaucoup portée par les Mélanésiennes, même jeunes. Sans trop s'éloigner de la coupe traditionnelle, elles évoluent surtout par les motifs et les couleurs. Les robes mission sont la tenue sportive des femmes jouant des matchs de cricket. Chaque camp a alors une couleur propre. On dit aussi une robe popinée à l'ifou, ou robe mélanésienne. Aujourd'hui, les femmes kanaks sont conscientes que le vêtement a été importé, mais le choix de porter la robe a complètement changé. La robe est considérée comme faisant partie de leur propre monde. Fabriquée sur place, elle est aujourd'hui un élément qui, selon le contexte, peut définir une allégeance locale à une tribu, ou bien l'identité nationale comme femme kanak. Benoît Boulet est l'un des derniers prêtres guérisseurs de la tribu Wairap, des indigènes Kanak, vivant au cœur de la végétation tropicale, exubérante, à côté de Yengen, au nord de l'île de la Nouvelle-Calédonie, dans l'océan Pacifique. Là, le culte ancestral célèbre la terre nourricière, berceau de l'échange perpétuel entre le visible et l'invisible, entre les vivants et les morts, par l'intermédiaire du guérisseur du clan. Chaque clan Kanak a son guérisseur, qui connaît ses secrets, sa force spirituelle. Benoît Boulet est appelé guérisseur parce qu'il guérit en utilisant ses mains, mais aussi des os, des plantes, un bouquet de feuilles, une pâte à base de noix de coco et des incantations, avec lesquelles il invoque les ancêtres, entre en communication avec les esprits. Je parle comme une prière, puis je vois passer devant mes yeux des petites fourmis et des petits lézards qui m'aident à trouver la maladie, explique-t-il. L'ensemble des rituels thérapeutiques kanaks sont inséparables d'une cosmologie dans laquelle on retrouve les quatre éléments primordiaux, l'eau, le feu, la terre et le souffle. Dans la conception de la personne, il existe des composantes, le sang et le souffle, menacés par la maladie et le malheur. Le traitement vise à redonner de la vie à ces composantes par le truchement d'éléments pris dans la nature. Les ancêtres sont au cœur de la vie sociale, gardiens des lois de la communauté, protecteurs de leurs descendants et partenaires de leurs échanges, garantissant l'efficacité des magies qui permettent aux vivants de soigner les maladies. Et la terre reste la référence ultime, le berceau de l'échange perpétuel entre les vivants et les morts, le visible et l'invisible, la force vitale qui nourrit les ancêtres et les esprits, chaîne ininterrompue, complexe et en perpétuel renouvellement, d'êtres et de choses toutes singulières, mais participant d'une même réalité, d'un même mouvement de l'être. Des fêtes sont organisées pour honorer et évoquer les ancêtres, notamment celle des prémices ou de l'igname nouvelle. L'igname est un tubercule très nourrissant, plein de vitamines, nourriture principale des Kanaks. Cette fête a lieu au printemps, au début de sa production. Mais ces esprits ne se manifestent pas aux vivants que durant ces grandes cérémonies, mais aussi quotidiennement. En effet, selon les croyances kanak, chacun vit entouré de lutins ou de djinns, bienveillants ou malveillants, dont il doit prendre garde. Ce culte et ses croyances traditionnelles restent le socle de la communauté kanak, encore majoritairement rurale, et semblent être le dernier rempart face aux répressions organisées par les missionnaires chrétiens et aux mouvements de colonisation. L'igname offerte à l'autel symbolise tout le pays avec les chefs, les vieux, les ancêtres, les enfants, et tout ce qui fait vivre cette contrée. L'igname accompagné des cordelettes, des coquillages, de la natte et de la jupe de fibres constitue l'essentiel des richesses échangées pour un mariage ou un deuil. Et elle scelle l'alliance entre les clans. Elle est un symbole de virilité, d'ancienneté, de pouvoir, de fertilité, de vie et de longévité. Pour cette cérémonie, une igname spéciale est plantée, un plant lavé précédemment avec des plantes médicinales. Plantée dans un champ, qui lui est réservée accessible uniquement aux prêtres. Une fois mûre, elle est récoltée et cuite selon un rituel particulier, avec la monnaie d'échange des Kanaks. cette monnaie faite de végétaux et d'animaux, coquillages, poils de roussette et os divers. Elle est posée au milieu des plantes et des autres richesses préalablement déposées par les membres du clan. Entourée uniquement des hommes, jeunes et vieux, le prêtre soulève le couvercle de la marmite et invoque au-dessus de la vapeur ancêtres et esprits protecteurs du panier. Dans un langage symbolique fait de formules destinées à cet usage unique, il souhaite ainsi vie et santé aux siens. Après les incantations, l'igname est partagée entre les membres importants du clan, puis est donnée aux femmes et aux enfants.
Je suis de l'Océanie, dans le Pacifique Sud, pas loin de l'Australie. Je suis de l'archipel de la Mélanésie, plus précisément en Nouvelle-Calédonie, dont la capitale est Nouméa. Je suis de Nouvelle-Calédonie, mais c'est...
Kanaki.
Mon pays est composé de 8 terres coutumières et linguistiques. Il y a le Haut-Mawab, le Paiti-Tchemoui, il y a le Adiaro, le Haratou, le Djoubé Akapone, le Djehu, le Négoné, le Yaï, dont 28 langues kanak parlées. Expression directe de mon identité, de ma culture et de ma vision du monde. Je voulais vous dire aussi, je vais parler en ma langue maternelle, en langue Djehu. Amlaïwe Kanapan, n'y a pas de pierre méchaud. Quoi t'y croit, tu t'y feu. Agadokou, ils sont là, tout pète tes cibles. Vraiment, mais ils t'y dokou. Mais que t'y amane, que d'adine, kacho, mais kachou. C'est une que la file, a chini la wa soa ka hetch, kai shin, ho ke, nye chini ke, a se yopetch, ma sha koi se, i tse ka wete wetch, te kucha ke la na fate, e yo la se le dimesh, de na ini se le ke me sin, dry ni mi keu, sho, ho, i pie, i me tse tse keu, lo do na bai kwet i ke de tit, i za lu keu, ha peu, na me le se e ne hi la, na me zane pi tu za ye me pi mama, tu la pa i shili ke tse ke chan, ke chele ke mai tse, ke chele ke mai tse, ke chele ke mai tse. Hanawanga me kunang, ni ke chene kana ta sil, kwa me ke ni bu ni ti ase, jo ha me sana da, me ite e jo me, ni yo ke ni kwa na chamany, me da dine la kana ti ase, ni fia me kuneke, lo ite jai na pan, ti vina ge da, ma te e te ge sa te amaman, la me le na ite ke chapan, kwa me na kwan, e ne ila, Ana zau che moi ne fen, anga zoya sa ach ba che pen, sa che fe kren. Ni muche la kanimi kasai peleje, ni ni kwada la kanimi mani me che we ke, sa che la kuye me kue. No me wana te me ku me kwene nerd, sa che ne he, ani bale ja wa so kwe. Ba het yon gadi a tene wa ye we ke, na ho bi khite a khite, tene ye lune wa ge le. A tene hulu a tene, ba pe nana kse ku na la pa. The Nedokin, Wali Hela News, I think I win my shot. Chilehi, Tingasa, Wako, yeah, who are Kola Hola, Chuchu. Now, Lea make a team, I say, Chona Tibu. Joako, Tena, take a win, I'm all me who are menu. I'm not a ton, Chokan, Isha, Menuen. Kissem, Rekon. Kissem, Rekon. Kissem, Rekon. Kissem, Rekon. Kissem, Rekon. Kissem, Rekon. Quand tu sèmes, tu récoltes. Avis à la population. Message d'encouragement. On a tous le même sang. Yes.
Thank you.
L'histoire que je vais vous conter s'est passée sur l'île de Ngone, à Marée, en Nouvelle-Calédonie, il y a bien longtemps. Cette histoire, les vieux la racontaient aux enfants, les soirs dans les cases, près du feu. Ils disaient qu'autrefois, il n'y avait pas d'hommes sur toute la terre. Il y avait de la verdure et des champs. Et dans cette nature existait le clan Serey, qui veut dire « plante » en langue de Ngone, la langue de Marée. Ce clan est composé de 4 familles, les Namacho, les Niaouli, les Wakoko et les Yenou. Les vieux racontaient qu'à chaque équinoxe, le grand esprit de la forêt venait rendre visite à ces familles et ainsi admirer leurs plantations et leurs récoltes. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Les Namacho, ce sont les bananiers. On les voit à perte de vue. Ils sont rangés, alignés les uns derrière les autres. Le feuillage est verdoyant et la couleur des bananes plus éclatante que le jaune du soleil. Les Namacho sont tous rassemblés et ils cueillent soigneusement et délicatement les bananes. Et au moment où il faut ranger les fruits dans les paniers tressés, ils se rendent compte que les paniers ne sont pas là. Alors, un des membres des Namacho décide d'aller chez le Yenou. C'est lui qui habituellement tresse les paniers. Le Namacho arrive au pied du tronc et appelle « Yenou, Yenou, cocotier !» Un ronflement se fait entendre. « Yenou !» Le Yenou se réveille tranquillement et s'écrie « Inotisaet, je suis fatigué !»« Mais quand nous remettras-tu les paniers tressés de ton feuillage ?»«
Oui, je ferai après, casse pas le feuillage !»
Ce qui veut dire « relax, te fais pas de bile !» Le Namacho repart et prévient sa famille que le Yenou, le cocotier, n'a pas accompli sa tâche. Un peu énervée, elle va devoir se débrouiller. La famille des Niaouli, elle pousse sur une grande étendue de terre. C'est un champ magnifique, avec des arbres plantés mesurant jusqu'à 20 mètres de hauteur. Et cette odeur qui parcourt la forêt, c'est enivrant, saisissant et tellement doux à la fois. Les Niaouli cherchent également leur panier pour y mettre leurs feuilles, mais ne les trouvent pas. Un des Niaouli court jusqu'à chez le Yenou et lui demande ses paniers.
Yenou, tinidja, nidja, je suis fatiguée, laisse-moi dormir.
Les Niaouli vont devoir aussi trouver une solution. Les Wakoko, ce sont les ignames. Ils poussent dans un champ, dans un grand champ, clôturé par une immense barrière en bambou. Des centaines d'ignames ont été récoltées. Le sol est riche et frais. Les Wakoko cherchent aussi leur panier pour ranger leurs ignames, mais ne les trouvent pas. Alors, ils font de même. Ils demandent au Yenou. Le Yenou, eh ben lui, il est fâché d'être de nouveau dérangé. Ça fait 3 fois. Alors, il crie « Aroi, Takolou, ça suffit, va-t'en !» Le Wakoko insiste, mais sans succès. Sans aucun panier, il repart dans son champ et prévient sa famille. Étonnée, la famille laisse les ignames en tas, à même le sol. Soudain, quelque chose chatouille les racines du Yenou, qui se réveille. Ce sont les vagues, la marée est en train de monter. Et lui, il se rend compte que le soleil va bientôt se coucher et il n'est pas prêt. Et c'est l'arrivée du grand esprit de la nature. Alors, à toute vitesse, il détache de sa tête les plus belles feuilles, ici et là, à droite et à gauche, et il tresse dans le stress, mais ne parvient pas à rendre le nombre de paniers souhaité. Bientôt, au loin, une lumière aveuglante descend au bas de la montagne, devant le clan Serey, silencieux. C'est le grand esprit.
Toi, le Namacho,
famille des bananiers. Pour avoir si bien travaillé la terre, ton fruit sera doux et sucré. Il sera l'un des préférés des hommes qui peupleront un jour cette terre. Ton fruit sera toujours accessible. Les Namachos se mettent à danser le cœur en joie. Toi, le Niaouli, pour ta superbe forêt, ton écorce te protégera des feux et tes feuilles serviront à couvrir le toit des cases et elles soigneront les douleurs et les maux des hommes. Les Niaoulis sont fiers et ravis. Toi, le Wakoko, famille des Ignames, pour tes excellentes récoltes, je veux aussi te récompenser. Tu seras sacré pour les hommes. On te célébrera une fois par an. Ce jour sera appelé la fête de l'igname. Les Wakoko sont si heureux et si honorés. Toi, le Yenou, le cocotier, tu n'as pas accompli ta tâche. Alors, on te lancera des pierres sur la tête pour faire tomber ton fruit et tu subiras la lame tranchante des hommes. Mais comme tu as essayé et que je suis clément, tes feuilles serviront à conserver et cuisiner la nourriture et le tronc de ton arbre à recueillir l'eau de pluie. Ce jour-là, le clan Serey a fêté dignement l'arrivée du grand esprit. Le Yenou, un peu moins. Ce conte a été écrit par Valentine Poujapoujane. Il a beaucoup de sens pour moi. Je suis mélanésienne, kanak, originaire de l'île de Djéhou, Lifou. Ma famille appartient à un clan qui s'appelle Apiangadohu, ce qui veut dire « petit enfant de chef ». Nous sommes comme un même corps, représentant chacun ses membres. Et nous avons des fonctions qui sont rattachées à des tâches bien précises. Et c'est ainsi pour tous les clans. Lors de cérémonies coutumières et religieuses, quand chaque membre fait sa part, nous avons le sentiment du devoir accompli. Surtout quand le travail est bien effectué, car nous avons tous besoin les uns des autres. Mais il nous est impossible d'accomplir une tâche qui ne nous incombe pas, ça ne fonctionnerait pas. En tout cas, ça ne fonctionne pas comme ça. Et un certain mal-être peut naître de cette situation, de la frustration, voire même de la colère. Mais pour chaque Kanak, il y a un réel plaisir de tenir dignement sa place, de parvenir ensemble au résultat attendu et à garantir l'unité du clan et de la famille. Chacun de nous a donc besoin d'identifier, de connaître et d'occuper pleinement sa place. C'est ainsi qu'il gagne la reconnaissance des autres, de la famille, et c'est aussi notre manière de pratiquer la solidarité. Et ça marche. Merci.
Je me réjouis d'avoir pu rencontrer un peuple qui a su se battre pour garder ses valeurs et ses croyances. En espérant que ce que vous avez entendu vous a plu. À bientôt !